Bonjour pour ceux qui étaient présents à la projection d'Orbital. Donc j'ai le plaisir maintenant de vous accueillir pour le deuxième moment de ce voyage en quatre étapes vers l'Asie, vers l'animation japonaise, vers le manga. La journée Mangatan qui est déjà à sa quatrième édition. Merci à vous de nous suivre si fidèlement et de nous permettre justement d'année en année de reconduire l'événement avec des choses différentes, des projections qu'on essaye d'approfondir ou des invités qui explorent des horizons de la SF japonaise très divers. Donc, et bien sûr, merci aussi à notre partenaire La Semi-Tan, dont le président Alain Bosvilvald était sur scène il y a peu de temps, qui nous soutient depuis les premiers jours de cet événement en 2007. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan West-Laurence, qui fut créateur d'Animeland, rédacteur en chef du magazine pendant 15 ans, qui est maintenant consultant spécialisé pour de nombreuses sociétés telles que Bandai, Hasbro, Disney, Columbia TriStar. Et puis, il intervient dans de multiples domaines, pas seulement le manga et l'animation japonaise, mais aussi sur tout ce qui est produits dérivés. Donc, Yvan, merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous. Bonjour à tous.
Bonjour, je te laisse peut-être prendre place. Et en fait, avec toi, on va un petit peu parler d'animation japonaise, bien entendu, mais surtout des liens entre les domaines, parce que cette année, le thème du festival, c'est frontières. Alors justement, quelles sont les frontières de l'animation japonaise? Quelles sont les influences dans lesquelles a baigné l'animation japonaise et le manga? Voilà ce qu'on aimerait explorer avec toi, si tu le veux bien.
Très 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 vaste sujet. Déjà, on observera que malgré peut-être l'absence d'efforts, en tout cas la volonté des Japonais de proposer une production qui serait limitée à leur archipel, leur production animée et même leur manga ont largement dépassé justement leurs frontières, sont allés au-delà de simplement leur pays, voire leur langue, et par le biais du dessin, par le biais d'histoires parfois passionnantes. Cela a dépassé donc le cadre non seulement du Japon, de l'Asie, mais est allé carrément en Occident, dans des lieux où il n'espérait certainement pas se faire entendre ou se faire connaître. Maintenant, le Japon a, en termes de science-fiction, des apports équivalents à ce qu'on a trouvé aux États-Unis. Beaucoup de titres et beaucoup d'œuvres sont évidemment largement influencées par des œuvres américaines, notamment des romans. Mais le Japon étant un pays, développé et industrialisé, a eu exactement les mêmes tendances que le reste du monde et qui a développé une littérature ou des domaines de science-fiction, à savoir des aspects technologiques, des aspects rapport à des questionnements sur leur environnement technique, qui du robot, qui du vaisseau spatial, de l'épopée dans l'espace. Il y a énormément de sujets qui se sont développés, pas forcément en écho à ce qui se faisait aux États-Unis, mais quand même bien souvent.
Là, on voit que tu nous as fait une sélection d'images justement en lien avec l'animation japonaise et la science-fiction japonaise. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre la science-fiction animation japonaise et le reste de la production mondiale ?
Elle est beaucoup plus foisonnante et je dirais qu'elle ose là où d'autres personnes se contenteraient de peut-être, je sais pas, un ou deux titres. Ils n'hésiteront pas à sortir des dizaines de séries par an, à explorer des univers connus ou inconnus et peut-être même à répéter inlassablement des univers qui ont déjà bien marché. Des titres qui font écho ces dernières dizaines d'années sont Macross, Gundam et même des mangas à succès qui sont devenus des films, des séries comme Ghost in the Shell et qui ont du succès non seulement au Japon mais aussi dans le reste du monde. Parfois par hasard, parfois de manière voulue.
Qu'est-ce que tu entends par de manière voulue? C'est-à-dire les Japonais préparent des productions qui volontairement, sciemment, vont plaire au plus large public et ne ciblent plus seulement leur propre marché?
Ces dernières années, de nombreux studios ont essayé de développer des partenariats ou des productions à destination notamment des États-Unis, qui pour eux est un énorme marché. Je pensais immédiatement au studio Gonzo, qui a parfois utilisé d'ailleurs la France comme marché test. Je pense notamment au film Origine, par exemple, et qui ont été relativement déçus parce que, vous me croirez ou non, ce film-là, qui est quand même pourtant très semblable à un Nausicaa, par exemple, ils étaient persuadés qu'ils l'avaient formaté pour un public enfant. Moi, j'aurais plutôt dit adolescent, voire adulte. Et bizarrement, le film n'a pas eu le succès escompté. Il y a de nombreux projets qui devaient être lancés dans les prochaines années qui ont été d'ailleurs arrêtés. Mais il y a eu plusieurs essais de ce type-là.
Juste une parenthèse, en fait, pour le public qui était parmi nous en 2006, Origine avait été diffusée à ce moment-là. Donc, si certains d'entre vous s'en souviennent, peut-être, ils peuvent raccorder avec ce que tu nous dis aujourd'hui.
Avec un excellent générique de début et de fin de Kokia, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, donc voilà, il y a, comment dirais-je, une volonté des Japonais d'essayer de formater leur production pour l'étranger, et bien souvent, ils n'y arrivent pas. Mais il y a quand même des exemples, pas forcément liés à la SF, qui ont eu un succès international voulu par des sociétés japonaises, américaines. Là, je pense immédiatement à Pokémon. On reste à savoir si c'est de la SF ou non. Pas nécessairement. En tout cas, le fait est que c'est le seul exemple de succès international voulu par les Japonais, par les étrangers, par les Américains, par les Français, avec des noms qui correspondent aussi bien au support jeux vidéo, manga, dessins animés, etc. Je vous assure que si vous regardez bien en arrière, c'est la seule série animée qui déjà soit issue d'un jeu vidéo, qui a fait développer aussi des cartes à jouer chez Wizard of the Coast, et qui, en plus, a été voulu par les chaînes. Tous les autres succès de la télévision, je ne parle même pas du cinéma, mais de la télévision, que ce soit chez Dorothée ou ailleurs, toutes les séries qui ont eu du succès, de Goldorak jusqu'à Dragon Ball, sans oublier les Chevaliers du Zodiac, le succès, il vient du public, il n'a jamais été voulu ou même planifié par les chaînes. Jamais.
On va essayer de remonter en arrière, parce que là, par exemple, dans l'exposition de la Maison d'ailleurs, il y a des vinyles de Star Wars, et justement, j'ai envie de reconnecter avec une série qui a beaucoup marqué à la fin des années 70, début des années 80, Sand Kukai. Beaucoup ont vu une filiation, en fait, entre ces deux œuvres. Est-ce que la science-fiction japonaise, d'animation japonaise, elle est coutumière, familière de ce type d'inspiration? Est-ce que c'est quelque chose
ça arrive
chose
quand même bien souvent. Elle profite en fait du succès constaté sur le moment, et immédiatement des projets se mettent en place. La production animée japonaise est quand même l'une des rares dans le monde à être capable de proposer en quelques mois seulement une série de plusieurs dizaines d'épisodes, un peu moins maintenant, mais littéralement clé en main. Et de réagir très très rapidement à un phénomène de mode. Maintenant, ils aiment bien les mélanges aussi. Et le Senkukai, en fait, réunit à la fois des aspects connus d'un auteur de manga qui est l'un des dignes héritiers de Tezuka, qui est Shotaro Ishinomori, très peu connu chez nous, mais qui a eu un succès de dingue au Japon, beaucoup moins aux États-Unis. Mais si je vous dis Kamen Rider, par exemple, ça vous dit rien? Bon. Si, peut-être un petit peu. C'était même essayé chez Saban avec Mask Rider. Mais enfin, toutes les séries de Sentai, toutes les séries avec ces héros bariolés, avec des robots géants transformables qui sont arrivés chez nous à partir de Bioman, ces séries-là, on les doit à Shotaro Ishinomori. Tous les héros à la Space Sheriff, ou les héros solitaires avec des armures qui ressemblent à des insectes, ou qui sont parfois même des androïdes comme Kikaider, par exemple, qui est sorti en dessin animé chez Dybex il y a quelque temps. Ces trucs-là, on les doit à ce grand homme. Et il se trouve qu'en fait, Sankukai, qui en réalité s'appelle, et je dis ça, c'est le titre en anglais, Message from Space, était au départ un film, largement, je profite de l'image là, oups là, évidemment je n'ai pas la télécommande dans le bon sens, voilà, Message from Space, qui était un film avec de nombreux acteurs occidentaux qui s'en sortent très très mal. Si vous avez envie de rigoler un samedi soir, si vous ne voulez pas regarder uniquement M6 et ces séries débiles, vous regardez le film de Sankukai et vous serez vraiment pété de rire. Mais ils ont commencé par un film, ils ont continué sur une série, Mais le fait est que dans ce film, on a énormément d'éléments qui sont repris de Star Wars. Un baroudeur, le collègue du baroudeur, c'est un singe, mais enfin, ça pourrait être Chewbacca. Il y a une espèce de robot qui rappelle vaguement R2-D2. Enfin bon, il y a énormément d'éléments comme ça qui font dire que, effectivement, San Kukai est une sorte de petit frère pas voulu par Lucas. Rappelons que le costume de Seaman était quand même tellement mal foutu que quand il fumait, il y avait quand même la fumée du cigare qui sortait par tous les orifices du masque. Hein. C'était quelque chose. Petite précision, l'un des acteurs, le plus jeune acteur de San Kukai, a fait une grande carrière et continue une grande carrière aux États-Unis dans de nombreux films, dont des films de SF. On l'a vu notamment dans Sunshine, le capitaine du vaisseau spatial qui meurt tragiquement. C'est lui. On le voit également dans la série Lost, la dernière saison, et on l'a vu dans de très très nombreux films. Il a joué dans énormément de choses. Au moins, il aura eu une carrière.
San Kukai, c'est de la science-fiction relativement, on va dire, de loisir. Est-ce que finalement, dans toutes ces œuvres de science-fiction animées japonaises, il y a un message sur la société? Parce que la science-fiction, elle est réputée pour nous dire des choses sur la société dans laquelle on évolue à travers les utopies, chroniques qui peuvent être décrites. Est-ce que là, il y a des messages à chercher, justement, à analyser dans l'animation japonaise et dans tout ce qui est d'influence japonaise?
J'ai en tête une réponse que m'avait donnée le réalisateur d'Apple Seed, Shinji Aramaki, qui me disait, vous savez, moi je me prends pas la tête, je fais des choses pour amuser les gens et faire un film où on passera du bon temps. Et je pense qu'effectivement, San Kukai, c'était ça. Fallait pas forcément chercher très très loin. Maintenant, s'il y avait un message à retirer de San Kukai, c'est effectivement le fait que des êtres livrés à eux-mêmes, loin de tout et notamment loin de la planète mère, la Terre, soit livré finalement au pillage d'être sans foi ni loi. Et là, on est par contre en rapport total avec une œuvre bien connue, que sont les Sept Samouraïs, qui a été repris ensuite par les Sept Mercenaires en version cow-boy. Et plus amusant encore, après Star Wars, il y a eu un film, j'ai pas osé vous mettre l'image, mais il y a eu un film qui s'appelait les Sept Mercenaires de l'espace. Ils ont fait une version des Mercenaires de l'espace, qui se passait dans l'espace, donc, et qui pourrait peut-être même avoir un petit rapport avec un certain un animé qui s'appelle Cowboy Bebop.
D'accord, donc... Si on explore un petit peu justement l'animation japonaise, il va y avoir des messages qui sont dits. Là, j'ai vu passer des images d'Albator, de Harlock. Par exemple, là, si on explore encore cet univers-là avant d'aller plus loin, pour toi, c'est quoi finalement le propre d'une série comme Albator?
Alors, là, c'est quand même des cas particuliers, mais enfin, chaque auteur et chaque réalisateur, voire chaque auteur de manga est particulier. Mais Leiji Matsumoto, pour la petite histoire, a commencé sa carrière en tant que mangaka, tout le monde le sait, a même commencé en tant que mangaka pour Shoujo, d'où ces êtres féminins, filiformes et si beaux à voir. Mais il a surtout commencé à se faire connaître au Japon avec une série qui s'appelle Uchu Senkan Yamato, à savoir Space Cruiser Yamato, une série qui se voulait justement de SF avec le Yamato, le fameux cuirassé amiral japonais coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, remis en état, transformé en vaisseau spatial et qui doit sauver l'humanité, figurez-vous, et qui part dans l'espace et qui arrive à vaincre tout le monde. Dans les films et les séries, ça devient vraiment ridicule. Au début, c'est une planète, après, c'est carrément une galaxie. Il y a des galaxies qui s'affrontent complètement. Donc, voilà. Yamato, c'est quelque chose de très, très, très connu aux États-Unis et au Japon, absolument pas en France. Nous, on a eu Albator. Et là, il y a un revirement complet par rapport à Leiji Matsumoto, qui n'était pas l'auteur de Yamato, qui était juste le chara-designer et le mecha-designer, comme on dit, c'est-à-dire qu'il avait fait les vaisseaux, les personnages. Par contre, avec Harlock, on a vraiment le fond de commerce de Leiji Matsumoto, avec des héros solitaires qui livre bataille contre tout un chacun. C'est Albator pour la symbolique. Le drapeau noir, ce n'est pas uniquement le drapeau des pirates. C'est l'anarchique de base. C'est le gars qui va dire, bon, bah, moi, vos histoires, j'en ai rien à fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma petite filleule qui traîne sur Terre et puis je vais la protéger comme je peux. Voilà, c'est ça, Leiji Matsumoto. Et il s'y est tenu bon an, mal an jusqu'à maintenant. Et bon, maintenant, Harlock, c'est quand même un digne représentant de ce que j'appellerais le space opéra. C'est-à-dire que tout comme Star Wars, tout comme Dune, là, on a affaire finalement à des histoires qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Éventuellement, il y a des robots, il y a des androïdes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des mutants, il y a des extraterrestres. Mais pour autant, bon, ça peut s'approcher de l'anneau des Nibelungen. Là, j'en profite pour rebondir puisqu'il y a eu une série animée de Harlock avec l'histoire des Nibelungen.
Là, en fait, là encore, je rebondis un peu sur ce qui nous passe sous les yeux. On voit beaucoup de robots et beaucoup de robots géants. On dit souvent que l'animation japonaise, une de ses caractéristiques, c'est le robot géant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est typique de l'animation japonaise?
Alors, beaucoup plus dans l'animation que dans le manga, pour une raison très simple, c'est que le marché du jouet est passé par là. C'est-à-dire que tout comme Star Wars a révolutionné le produit dérivé avec des figurines, des vaisseaux spatiaux qui se trouvaient beaucoup plus facilement que quelques années auparavant avec d'autres films, on se retrouve avec une production de produits dérivés au Japon qui était déjà florissante au début des années 70 grâce à Go Nagai, avec notamment des robots comme Mazinger, Goldorak, etc. Et qui a pris encore un chemin supplémentaire à la fin des années 70, avec déjà un développement dans le monde entier. Par exemple, ce jouet-là de Goldorak n'était pas japonais, mais italien, d'une marque disparue qui s'appelle Atlantic. C'est-à-dire que les Italiens avaient développé des produits comme ça. Pour la petite histoire, en fait, le succès, encore une fois, de Goldorak n'étant pas voulu en 78, il faudra attendre la fin de l'année, voire 79, pour obtenir des produits dérivés licenciés, c'est-à-dire vraiment autorisés et qui ont été négociés avec les ayants droit. Mais quoi qu'il en soit, donc les produits dérivés sont passés par là, et du coup, les séries animées des années 70 et des années 80 ont tout fait pour développer chaque année plus de séries faisant appel à des vaisseaux, surtout des robots, et des robots, si possible, transformables. Et ça, c'est quand même important, puisque là, on a le robot Goldorak en jouet de Go Nagai, qui est piloté dans la tête, qui n'est pas transformable pour un sou, pour deux peut-être, et le Goldorak, il ne se transforme pas encore. Mais le robot transformable, il n'est pas loin, il y a déjà Getter Robot du côté des productions de Go Nagai. Mais ensuite, il y a une société qui s'appelle Takara qui va développer des jouets transformables à partir d'objets utilitaires comme des camions, une voiture. Ça va donner la collection Diaclone. Et cette collection Diaclone va donner aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde un truc que vous connaissez bien qui s'appelle Transformers. Donc en fait, Transformers, à l'origine, c'est japonais.
Et du coup, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que les impératifs commerciaux par rapport aux jouets vont directement impacter aussi le scénario d'une œuvre.
Tout à fait. Par exemple, là, on a une image, comment dirais-je, assez représentative de la production animée de 79 avec la première série de Gundam. Comme vous le voyez, on a des robots et des dessins quand même assez approximatifs. Pour autant, il y a une véritable révolution dans cette série animée, c'est-à-dire qu'avant, le robot était unique, le robot était symbolique, il avait des pouvoirs pratiquement magiques. Là, on a affaire franchement à une vraie série de SF qui se passe dans l'espace. Il n'y a pas d'extraterrestres, c'est entre humains, ça ne se passe pas dans des planètes lointaines, c'est des satellites qui sont au niveau de la Lune, donc c'est pas très très loin, c'est entre guillemets réaliste, et surtout on a affaire là à des armures géantes qui au départ étaient faites pour la construction de satellites afin de lutter contre le fléau qu'on connaît actuellement, à savoir la surpopulation et le fait de trouver de l'espace, finalement sans mauvais jeu de mots, pour l'être humain. Maintenant, pourquoi ont-ils fait des robots géants? C'est parce que, à l'époque, pour la production de cette série, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va essayer de faire des jouets. Et il y a une société qui s'appelait Clover qui a fait des jouets, qui a marché un temps et puis qui a disparu. Et à côté de ça, il y a une société qui, à l'époque, était quand même pas si florissante que ça, qui s'appelait Bandai, qui n'avait pas la licence des jouets, a fait des maquettes Et c'est avec le succès des maquettes et le succès des films de Gundam que Bandai a développé depuis 30 ans cette année le succès qu'on connaît autour des maquettes de Gundam et qui continue d'avoir du succès. Du coup, de ce genre de design, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus élaboré, à savoir que là, par exemple, bon, c'était quand même il y a 20 ans, avec Gundam 0083, le design des mechas est réalisé et dessiné par des gens qui sont issus de la génération Gundam. On parle de génération Gundam. C'est-à-dire ceux qui étaient tout petits et qui avaient fait les maquettes en question, ont fini par travailler pour ces sociétés-là, ont fini par améliorer le design et continuer sur cette lancée-là. C'est quand même un cas assez typique.
Oui, et quand on regarde justement les séries Gundam, on voit les robots évoluer, et notamment il y a un grand classique, le robot de départ ne sera pas le robot final, il y aura un upgrade du robot en question. Donc des contraintes assez fortes au niveau scénaristique. Est-ce que les Japonais, est-ce que tu sais s'ils le perçoivent comme une contrainte justement, ou est-ce que c'est pour les créateurs japonais, c'est un jeu ou c'est leur travail, c'est quelque chose de logique?
Ça fait partie d'une formule qu'ils savent gagnante. Donc, pourquoi la changer? Par contre, ils peuvent essayer de l'améliorer. Vous voyez, par exemple, là, un certain nombre d'images tirées des premières séries Gundam. Là, c'est Zeta Gundam, qui date de 1984. Ça date quand même un peu. Ça reste quand même la meilleure série Gundam, de mon point de vue. J'ajoute, petit aparté, que malgré le fait qu'il y ait des robots et des ventes de maquettes et de jouets dans Gundam, le sujet principal, ça reste l'être humain. C'est quand même des séries avec un nombre impressionnant d'héros. Ça se compte par dizaines. Et le réalisateur aime à les tuer. Il est un peu sadique, il aime tuer ses héros. Mais le fait est qu'ils ont développé la licence Gundam à fond, jusqu'à faire des trucs totalement ridicules, des Gundam qui se battent sur Terre pour avoir le pouvoir, des Gundam par 5 avec une espèce de boys band de l'espace, voilà, Wing Gundam, le premier Gundam qu'on a eu en France, c'était des boys band avec là par contre des formules issues du monde du fanzina et du manga, avec des rapports plus ou moins cachés entre des personnages masculins entre eux, histoire de toucher le public féminin, et ça a totalement marché, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à renouveler le public de Gundam en touchant le public féminin et non plus masculin dans Gundam. C'est d'autant plus vrai que sur cette même période et un peu plus tard, pas dans la série animée mais dans des séries live, il y a eu des modifications aussi dans des séries de type Bioman ou Power Rangers, vous les appelez comme vous voulez, et sont apparus, alors qu'avant il y avait des acteurs qui étaient de vrais cascadeurs, de vrais maîtres d'arts martiaux. Rigolez pas, un truc aussi vieux que Spectroman, le gars qui était dans le costume était maître d'arts martiaux, était d'ailleurs le maître de mon ami Pierre Ginaire. On regrette le départ d'ailleurs de ce grand monsieur qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et ces gens-là ont été remplacés par ce que j'appellerais des beaux gosses. Les filles de cette salle pourront peut-être appeler ça des bishonen. Voilà, des jeunes gens charmants qui sont là en fait pour charmer la ménagère de base qui garde les enfants à la maison pendant que la série passe pour les mouflets. C'est une réalité, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de grignoter là où ils peuvent. Et au final, on se retrouve avec des séries Gundam qui, au départ, étaient juste des conflits entre humains, les satellites contre la Terre, un héros contre un autre. Et ben, finalement, ça se complexifie. Il y a des choses très, très complexes qui se développent. Et comme ça ne pouvait pas tenir dans un seul univers, ils ont fini par créer différents univers. Il y a différents univers de Gundam. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et ça devient vraiment très, très complexe à gérer. Je rappelle que Gundam, donc cette année, a 31 ans. Ça a débuté en 1979. Et c'est une véritable institution. Ça, c'est la dernière série en date, à savoir Gundam 00. Pour la petite histoire, il continue encore sur la lancée de s'inspirer des succès du manga, puisque la Kara Designer est issue du Yaoi manga.
Dans les séries de robots dont le robot a justement une grande importance, Gundam en France, on est seulement encore en train de le découvrir quelque part, si on peut dire ça. Il y a une série qui a marqué quand même les années 80, c'est Robotech, Macross.
Alors Macross Robotech, ça c'est une grande histoire. Là effectivement, il y a toujours eu des ponts et des allers-retours entre les États-Unis et le Japon. On parlait de Star Wars et de Satgukai tout à l'heure, mais on peut rappeler que les Américains, étant dépassés par le succès de Star Wars, ils ont voulu proposer des choses équivalentes à la télévision. Un an plus tard, on voyait arriver Galactica, mais entre-temps, une société a eu la bonne idée de sortir, par exemple, la bataille des planètes, la guerre des étoiles, la bataille des planètes, c'est un peu lié. Et c'était ni plus ni moins qu'une série de la Tatsunoko qui s'appelle Gatchaman, qui n'avait strictement rien à voir avec des batailles de planètes en quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, sur cette même lancée, les Américains ont une société qui a lancé une série que vous connaissez tous ici, j'imagine, si je vous dis... Mince. Si je vous dis Gigi, la première Magical Girl connue en France, eh bien, elle a été lancée par une société qui s'appelait Harmony Gold. Et cette société était donc en rapport avec le studio Tatsunoko, donc très connu aux États-Unis, et a mis la main sur la série Macross, avec Minmay qui chante et qui arrive à séduire de grands, grands, grands extraterrestres. Et le problème, c'est que c'était pas assez long. Et donc, il a fallu trouver une solution pour allonger les épisodes, en mettre un peu plus. Et toujours dans un souci de marketing, puisqu'en fait, la société Harmony Gold a aussi racheté le nom Robotech à une société européenne qui s'appelle Revell et qui avait lancé des maquettes japonaises dans toute l'Europe, sous le nom de Robotech. Ils ont Robotech, ils ont Macross, pas assez d'épisodes, et Tatsunoko leur dit, y a pas de problème, on a deux autres séries, on aime bien faire des séries qui se ressemblent. Et on a deux autres séries qu'on a fait deux ans plus tard, puisque Macross date de 82, on a Mospida, on a Surf and Cross. Tu prends les trois, tu mélanges, et puis voilà. Et du coup, en fait, on a eu, en France, aux États-Unis, dans le monde, une série qui s'appelle Robotech, qui mélange trois séries qui n'ont rien à voir entre elles. Ils ont changé les noms, ils ont changé les musiques, qui étaient pas mal d'ailleurs, et du coup, ça a été un succès mondial. Pour la petite histoire, le problème, c'est que Tatsunoko a vendu tous les droits à Harmony Gold, que pendant ce temps-là, il y a un studio au Japon qui était le créateur de Macross, qui s'appelle Big West, qui n'a pas eu son mot à dire. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que les Japonais de Big West et les Américains d'Harmony Gold se chamaillent sur les produits dérivés de Macross. Il n'y a pas moyen d'avoir quoi que ce soit. C'est un peu comme Candy. Il n'y a pas moyen d'obtenir quoi que ce soit de la part de ces gens-là à cause d'un conflit d'intérêts au niveau des licences.
Justement, dans Macross, ce qui me paraît vraiment caractéristique, c'est l'ajout de la musique, de la dimension musicale, et ensuite de son exploitation. Ou est-ce que c'est l'exploitation musicale qui conduit maintenant le scénario
La musique, les génériques ou ce genre de choses au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère. D'une part, il y a déjà, dans un premier temps, il est clair, une influence évidente du cinéma et du cinéma américain. Vous connaissez tous les compositions de John Williams sur Star Wars. Si je vous demande de chantonner Les Dents de la Mer, non, ne le faites pas. Ou Star Wars, ou Superman, ou Harry Potter, vous vous rappelez tous de ce genre de trucs. Même ça, c'est en rapport déjà avec une vieille tradition qui vient de Disney, qui avait compris depuis longtemps que des thèmes musicaux, c'est lié aussi aux comédies musicales, restent dans la tête. C'est vraiment une empreinte sur le cerveau, quelque chose d'indélébile, littéralement. Le fait est que les thèmes de Star Wars étaient symphoniques à cause de 2001. 2001, Stanley Kubrick, au départ, avait fait composer des musiques pour lui, s'inspirant de thèmes classiques. Il s'est aperçu en fait que le montage passait parfaitement avec les musiques classiques, il a fini par les garder, et tout le monde connaît Ainsi parlait Zarathoustra, Strauss, par le biais de 2001. Et finalement, cet aspect musical s'est imposé à Lucas de lui-même, 10 ans plus tard, puisque je rappelle que 2001 date de 1968, un an avant le véritable alunissage. Et les musiques symphoniques se sont imposées d'elles-mêmes aussi, du coup, pour Gundam et pour d'autres séries qui veulent paraître, comme dirais-je, plus imposantes. Les musiques dans Gainax, par exemple, en font partie. Petit aparté, par exemple, Joe Hisaishi a toujours regretté d'avoir été obligé d'utiliser un bon tant pis, littéralement, pour la Piuta ou pour certains films par manque de budget, et a volontiers refait les musiques de manière symphonique plus tard. Quoi qu'il en soit, les génériques, qu'ils soient chantés ou non, les musiques sont très importantes au Japon et constituent un produit dérivé et un marché en soi. Un marché énorme. C'est le seul pays, à ma connaissance, qui élève à ce point le respect par rapport aux doubleurs de personnages. Au Japon, il n'est pas ridicule de dire, bah voilà, vous verrez cette série parce que c'est le doubleur de Ken, c'est le doubleur de Char Aznavour, c'est le doubleur de machin, de truc, de bidule, c'est la doubleuse de Ranma. Et puis des fois, les doubleurs ou les doubleuses poussent la chansonnette. Et ça donne quelqu'un qui va chanter des génériques de Dragon Ball, alors qu'il est la voix de Yamcha. Ça va donner des chansons de la doubleuse de Ranma, Megumi Hayashibara, je crois, et qui fait des tas de voix ridicules dans tout un tas de séries. Donc c'est un aspect qui est très, 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 très important. Et tu parlais tout à l'heure du fait que les productions pourraient être éventuellement influencé par les choix musicaux. Il se trouve qu'il y a une personne que tout le monde, j'imagine, connaît ici et respecte. Je pense immédiatement à la compositrice Yoko Kanno, qui a signé les musiques de Macross Plus, de la série Ghost in the Shell, de très 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 nombreuses choses, de Escaflowne par exemple. Enfin, ces 15 dernières années, elle a marqué, là encore, de ses compositions beaucoup de choses, mais elle a surtout, par exemple, fait parler d'elle sur un truc comme Cowboy Bebop. Il se trouve que j'ai appris que les scénarios et même les titres des épisodes dans Cowboy Bebop étaient faits en fonction des lubies de madame qui disait bah là je voudrais du jazz, ah bah là je voudrais plutôt du rock, là je voudrais ci, je voudrais ça. Et du coup, c'est imposé une production, une réalisation autour de ce que pouvait faire la compositrice à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même assez amusant. C'est-à-dire que loin d'être une contrainte, ils font avec, mais surtout ils essayent d'inventer et d'aller plus loin. Ce qui rend d'ailleurs la série Cowboy Bebop absolument unique en son genre.
Donc en fait, tous ces impératifs par rapport aux jouets, par rapport à la musique, ils ne doivent pas être vus comme des obstacles ou des contraintes à la création des éléments qui vont dans le sens inverse.
Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que contrairement au Japon ou aux États-Unis, en France, quand on parle d'une œuvre, on a l'impression que dès qu'il y a de l'argent à se faire derrière, c'est pas bien, c'est ah, beurk, caca. Pourtant, tout le monde est là pour dire ah, bah, tel tableau, ça coûte combien ? Si ça coûte très très cher, alors c'est forcément quelque chose de très bien, et puis si c'est une croûte, forcément, ça coûtera 2 centimes. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. D'une part, la production animée, tout comme le manga, c'est un univers qui demande à être rentabilisé. Et tout est bon pour ça. Là encore, Disney a apporté énormément de choses dans les années 30 avec le produit dérivé. L'un des premiers produits dérivés de Disney, c'était la montre de Mickey où les bras donnaient l'heure et les minutes, par exemple. Mais tout était bon pour produire finalement des objets et rentabiliser au-delà de l'exploitation de l'œuvre, on va dire, alpha. On a le manga, on a le dessin animé, mais à part ça, si on n'arrive pas à le vendre, si on n'arrive pas à le diffuser, bah, s'il y a au moins les produits dérivés, ça peut marcher, ça peut faire le buzz. Plus amusant encore, les Japonais ont poussé le vice encore plus loin, puisqu'en fait, le produit dérivé permet de faire connaître une série, permet de faire connaître un auteur, permet de faire connaître bah, une compositrice, un compositeur. Tout est exploité au Japon, jusqu'au moindre dessin qui devient ce qu'on appelle des artbooks. Ça se fait assez rarement en France, et c'est dommage, mais il y a énormément de choses à apprendre de ce genre de méthode. Et ça permet de rentabiliser jusqu'à la moindre feuille de papier utilisée pour les productions en question. Et le produit dérivé, c'est le moteur de cette production animée si foisonnante au Japon. S'il doit y avoir des produits dérivés à côté de tel ou tel truc, pourquoi pas. Maintenant, il y a des œuvres qui sont tellement à part, qui sont tellement pas ciblées sur un public particulier et qui est juste une envie d'un studio, que bah, les produits dérivés, on va mettre très longtemps à les avoir. Aussi étrange que ça paraisse, les produits dérivés d'Evangelion ont mis très longtemps à apparaître. Et les premiers jouets ne sont apparus que bien après la sortie et la diffusion de la série, et uniquement parce que Bandai et Sega étaient supposés fusionner. Mais si vous me laissez parler là-dessus, j'en ai pour 2 heures.
Bon, alors on va revenir par rapport au thème justement de la conférence. Et plus exactement, en fait, on a beaucoup parlé ici de séries animées, on a parlé de Gundam, de Macross, de Goldorak, beaucoup d'animations. Et c'est pareil, quand on demande généralement à des gens quelles sont les œuvres de SF, les films de SF qui les ont marqués, généralement c'est des titres plus d'animation qui ressortent que des films de prise de vue réelle. Quand on demande par exemple quels sont les films asiatiques qui vous ont marqué dans le domaine de science-fiction, on va avoir comme réponse Akira, Ghost in the Shell et ce type d'œuvre. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il y ait une telle vivacité de la science-fiction dans l'animation au Japon, alors que dans le reste du monde, notamment par exemple aux États-Unis, les œuvres qui vont ressortir, ça va être par exemple Star Wars, ça va être aussi Tron, même si dans Tron on est à la frontière. Et voilà, est-ce qu'il y a une raison à ça?
Alors la raison est très très simple, c'est que là où les Américains, quand ils développent un projet, ils sortent des millions de dollars de leur poche. Les Japonais, c'est limite, ils font pas ça avec trois cure-dents et deux bouts de plastoc. Donc il y a un problème de budget d'une part, et d'autre part, tout comme le manga était quand même l'expression, comment dirais-je, d'un réalisateur de film, qui n'avait pas les moyens. Hein. Tezuka clairement avait cet amour du cinéma, voire de l'animation, qu'il ne pouvait exprimer par un support qui coûtait si cher. Donc du coup, il a fait du manga comme beaucoup. Bah, c'est pareil avec la réalisation de sujets, j'allais dire, ambitieux. Les sujets de Mamoru Oshii, le voir en live, mine de rien, autant ça semble logique de le voir en dessin animé, un truc comme Ghost in the Shell, autant en live, on ne sait pas ce que ça donnera. Je dirais même qu'à la limite, on aurait toutes les raisons de craindre une version live, puisque Mamoru Oshii, c'est quand même essayer à des films en prise de vue réelle, et là où on pourrait croire qu'il faisait des économies d'argent sur des scènes un peu figées, cartes postales, Ghost in the Shell, il y a une scène comme ça où on voit le Major Kusanagi en train de se lever, ça dure 5 minutes, on voit que la ville, il se passe rien, il y a une musique lancinante, on a envie de dire à ce cher Kenji Kawai, mais bon sang, mets un peu de boum 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 parce que là je m'endors. Eh bien non, en fait, sachez que même quand ils filment de vrais acteurs, ils leur demandent de se figer, de rester comme ça, dans une pause, et puis il va faire durer le moment très longtemps. Et ça, c'est dans Kerberos Panzer Corps, qui plus tard est devenu Jinro, en animation d'ailleurs. C'est aussi Avalon. Si vous regardez Avalon, on reconnaît immédiatement la patte de Mamoru Oshii. Mais s'il a pu faire un truc comme Avalon, c'est aussi parce que, mine de rien, il y a les solutions informatiques qui passent par là, et des solutions informatiques qui coûtent de moins en moins cher. Là, on pourrait parler également de ce qu'on voit à la télévision, mais c'est vraiment un problème de budget. Autre chose aussi, il y a quelque chose assez étrange, c'est que les éléments du quotidien qu'on a autour de nous, on parlait de Tron, par exemple, si Tron passe, même si les effets spéciaux font un peu dépasser maintenant, si à l'époque ça passait, c'est parce que c'est dans un domaine et c'était dans un univers qui était assez peu connu du public et surtout qui était ouvert à tout. Finalement, un terrain de jeux vidéo, mais placé dans la vie réelle, ça pouvait ressembler à des traits en perspective avec des gens avec des lumières dessus, pourquoi pas. Par contre, si vous faites une créature comme, je sais pas, un rhinocéros, un éléphant ou des créatures de la jungle dans un film comme Jumanji, on verra immédiatement que c'est pas vrai parce que le poil ça va pas, ça fait pas vrai. On sait instinctivement comment un personnage, une créature qu'on connaît évolue. Jurassic Park ne pose pas ce problème-là parce qu'on n'a jamais, on ne verra jamais de dinosaures vivants de notre vie. Donc du coup, à l'image, ça passe. Par contre, en animation, tout est possible. Tout est possible dans l'émotion, tout est possible dans le trait, tout est possible dans le style. Et on peut jouer sur d'autres aspects. L'aspect, on parlait tout à l'heure de musique, c'est un aspect important. On peut jouer sur le montage, on peut jouer sur le rythme, on peut jouer sur énormément de choses. L'animation est ouverte à énormément de choses. Et c'est pour ça que les Américains, en ce moment, ils arrivent à faire autant de trucs, parce que l'animation, les effets spéciaux, c'est un peu la même chose. Et du coup, maintenant, on a des tas de super-héros qu'on ne voyait qu'en collant et suspendu à un fil comme Superman il y a 30 ans. Ça restait quand même d'excellents films. Maintenant, on a des Iron Man, on a les futurs projets de Marvel qui vont tout casser. et tout est possible. Je dirais même qu'à la limite, trop de choses sont possibles. Mais on en revient à ça, c'est le prix. Maintenant, le Japon n'a pas la primeur de ce genre de projet, les Américains non plus. Entre les deux, il y a un pays d'Asie qui est en train de se développer et qui propose des choses absolument fabuleuses, et c'est la Corée. Alors, bizarrement, en animation, pas forcément, mais par contre, en film, il y a des choses qui reprennent finalement l'inventivité des Japonais et le petit budget et les moyens techniques des Américains. Et entre les deux, on a des choses absolument formidables, avec des sujets comme le voyage dans le temps, des sujets comme des monstres mutants, je pense à The Host, et des tas de films comme ça. C'est des choses à suivre.
Bon, ben c'est super, tu fais les transitions à ma place, parce que justement, après avoir exploré les différents, l'animation, le film live, je voulais explorer un peu les genres et au-delà des frontières. Mais bon, le temps passe, je vais demander au public s'il y a des questions dans la salle.
On va leur poser la question, quels sont leurs films préférés.
C'est un peu difficile, donc je vais continuer. Alors, justement, là tu parlais de Corée. En France, on voit des créateurs français qui vont chercher à travailler avec des Japonais. On a vu les Daft Punk avec Interstellar 5555. On a vu tout à l'heure des images qui ont fait réagir le public de Valérian et Laureline. On peut aussi penser à Urban Star Racer. Est-ce que c'est de l'opportunisme de la part des Français? Ou est-ce que c'est autre chose, de l'admiration, un rêve?
Alors, je vais être obligé de revenir loin en arrière. Vous le savez tous, l'animation japonaise a débuté en France fin des années 70, en 78 exactement, avec deux œuvres qui sont très représentatives et du shoujo et du shonen, à savoir Goldorak et Candy. On a eu les deux en même temps. Et le succès pas attendu du tout de ces séries-là en a amené d'autres. Et les Japonais ont une énorme production, mais les Français se sont dit « Mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça à nous ?» Puis ils ont regardé quand même en France ce qu'il y avait, et puis ils se sont rendus compte qu'à part ce pauvre Paul Grimaud qui avait déjà du mal à monter un sujet comme Le Roi et l'Oiseau, il n'y avait aucun studio d'animation capable de produire quoi que ce soit. Donc, première idée, c'est d'aller au Japon, de travailler avec les Japonais, de dire « Bon, nous, on a les idées, et puis puisqu'on est français, on est forcément meilleur que vous, blablabla, et puis on va lancer des trucs. » Bon, ça a donné quelques productions qui ont fait le tour du monde pour certaines, notamment chez Dick avec Jean Chalopin, des trucs comme l'Inspecteur Gadget. Ça a donné des choses comme Les Cités d'Or, ça a donné des choses comme Ulysse 31, ça a donné des choses comme les premiers Il était une fois, Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, c'était fait avec les Japonais. Et même les musiques d'Il était une fois l'homme étaient faites par les Japonais à l'époque. C'est-à-dire que Procidis a débuté avec les Japonais. Malheureusement, ça s'est mal passé. Faut dire qu'entre la barrière de la langue, l'éloignement, à l'époque il n'y avait pas internet, si je vous assure, ils étaient obligés d'envoyer des telex, des fax, ça pouvait prendre des jours, ils envoyaient des signaux de fumée façon comme les Indiens, enfin, c'était une horreur, et donc ça s'est arrêté là. Dick a continué avec les Américains, ça a donné des choses comme Pole Position, Mask, les Popples, Jace et les conquérants de la lumière. Petite précision, masque, ça n'a pas été fait au Japon, mais le design est fait par les Japonais, par un studio qui s'appelle Studio Artmic, et notamment signé de notre ami Shinji Aramaki qui a fait le film Appleseed. Et donc ça s'est limité à ça, et pendant des années, il n'y a rien eu d'autre, et même les Français ont eu la prétention à un moment avec des horreurs comme... c'était comment le truc là qui se passait sous terre là. Mon Dieu, j'aimais pas. Les mondes engloutis, voilà. Eh bien, figurez-vous que les Français avaient les prétentions de dire que ça y est, ils avaient lancé une véritable industrie de l'animation avec ça. Burke. Les chansons, on en revient aux chansons, effectivement. Là, le produit dérivé de base, c'était les chansons. Effectivement, ça avait énormément marché. Mais quoi qu'il en soit, donc, il n'y avait rien eu. Et en fait, c'est des années plus tard que des Français qui sont issus de ma génération, voire un peu plus vieux, se sont dit « Mais au fait, moi, j'aimais bien Abattoir, j'aimais bien Candy, j'aimais bien ceci, j'aimais bien cela, et j'aimerais faire quelque chose avec les Japonais, j'aimerais faire quelque chose qui soit respectueux du souvenir que j'avais de ces productions. » Ça vint Yitman Eiffel, qui est l'arrière-petit-fils de Eiffel, le vrai, a lancé il y a 10-15 ans, un projet fou de faire une série qui devait présenter des sujets à la jeu vidéo, c'est-à-dire des poursuites d'engins futuristes dans différents mondes lointains. C'est devenu à un moment Molly Star Racer, c'est redevenu plus tard Oban Star Racers, ça a été fait au Japon avec des Français, avec des Japonais, des Français qui sont allés au Japon, qui ont appris le japonais, qui sont même mariés avec des Japonaises, qui ont pondu des chiards. Ils sont allés là-bas, ils ont travaillé, ils ont fait une série qui est formidable et qui malheureusement n'est pas assez connue. Donc si vous ne connaissez pas, retenez bien ce titre, Oban Star Racers, de Savin Yitman Eiffel, quelqu'un qui mérite vraiment toute votre attention et tout votre respect et qui a travaillé avec les Japonais. Maintenant, le problème, c'est que ça s'est quand même relativement mal passé. Ça s'est mal passé avec les Japonais, ça s'est mal passé avec les Français, parce que France Télévisions n'a pas voulu reconnaître le génie de cette production, a voulu revenir à, comment dirais-je, à un public plus jeune, puisque Oban Star Racers, comme d'autres séries, s'adresse quand même à des adolescents, voire des jeunes adultes. Je ne parlerai pas ici de Skyland, par exemple. Mais il y a une autre série qui a été faite, effectivement, l'adaptation d'une BD très connue des amateurs de SF en France, qui est Valérian.
Et Laureline.
De Mézières et Christin. Une BD que j'adore, qui m'a lancé dans la SF parmi tant d'autres sujets dans les années 70, pour ce qui me concernait, qui a débuté dans les années 60 et qui a eu plusieurs fois des propositions d'adaptation en animé. Ça a toujours foiré et finalement c'est des Français qui ont dit bon, on va travailler avec les Japonais, on va faire ça et tout. Ils ont fait un épisode pilote qui a plu aux auteurs et puis finalement la série a été lancée, n'a jamais été passée sur France 3, n'est passée que sur deux chaînes câblées je crois, et passée totalement inaperçue. Elle date de 2005, elle a été terminée et elle a été travaillée avec un studio japonais qui s'appelle Satellite. Et bien au final, très mauvaise expérience, puisque les Japonais ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Les Français ont boudé cette production qui ne ressemblait pas à la BD originale, alors qu'au final, ça reste une production tout à fait honnête. Moi, je dirais que c'est un peu City Hunter, Nicky Larson dans l'espace, quoi. Voilà.
Le mot de la fin, alors, regardez Oban Star Racer.
Voilà, exactement. Exactement. J'aurais bien aimé vous parler de tout un tas d'autres trucs, des rapports entre Toriyama et la SF. Il y a des tas de choses à dire. Starship Trooper, énormément de choses à dire là-dessus. Mais bon, là, il y aurait des bouquins à faire s'il y a un éditeur.
Ça nous donnera des occasions de te réinviter
voilà.
Les années à venir. Mais merci beaucoup, Yvan, pour cette passionnante conférence.
Merci à vous et de nous avoir écoutés. Et puis maintenant, je pense que vous êtes tous venus pour le cosplay, c'est bien ça ?
Oui. Je crois qu'ils sont venus pour
le cosplay. Rien que pour vous embêter, je vais rester là et continuer à parler.
Bon, alors le cosplay va commencer dans 5 minutes. Oui. Merci beaucoup, Yvan. En plus, pour moi, c'était un plaisir de t'accueillir. Parce que je lisais tes écrits quand j'étais adolescent. Donc,
Vas-y, vieillis-moi.
Voilà. Donc le cosplay commencera dans 5 minutes. Juste un petit message, je vous demanderai de laisser 2 mètres au niveau de le devant de la scène parce qu'on va installer des tables pour le jury. Donc s'il vous plaît, laissez 2 mètres à ce niveau-là. Merci.